Trudeau Landry. Trop cool pour Facebook. Trop cool pour Instagram. Fait qu'on les a mis à radio.
11h24, re-bienvenue dans Trudeau Landry. Je vous redonne le numéro de texto pour joindre notre équipe. Si vous avez des opinions, mais vous n'êtes pas obligé de penser comme nous en passant. 25-226 ou encore par téléphone le 1-877-670-9330. Jérôme Landry, Jonathan Trudeau, Nicolas Lacroix et Alexandre Tétrault qui est là aussi à la mise en onde. Jonathan, j'imagine que tu te souviens de la médaille, la médaille d'or. En fait, qui était une médaille d'argent, mais qui est redevenue une médaille d'or. Comment de Sylvie Fréchette. C'est ça, à Barcelone, en 1992, lors des Olympiques. Sylvie Fréchette qui a beaucoup marqué, je pense, les esprits, qui a beaucoup marqué le Québec avec ses performances en nage synchronisée. Sylvie Fréchette a tenté une carrière politique il y a 2 ans comme candidate conservatrice dans un comté, je me souviens pas le comté, je pense que c'était dans la grande région de Montréal, là, la couronne montréalaise, exactement ça. Et voici que Sylvie Fréchette, aujourd'hui, on fait une sortie publique avec, puis c'est une sortie conjointe, là. C'est 6 athlètes de natation artistique, dont Sylvie Fréchette, qui ont décidé de briser le silence et qui ont décidé aujourd'hui de dénoncer la culture d'abus et le climat toxique qui sévit depuis des années au sein de Natation Artistique Canada. Notre collègue journaliste au réseau Cogeco, Philippe Bonneville, a assisté au point de presse. Bonjour Philippe!
Bonjour à vous deux!
Alors, de quoi il était question dans ce point de presse?
Écoute, on a eu droit à des témoignages vraiment troublants de la part d'athlètes qui ont fait partie de l'équipe nationale de nage synchronisée, ce qu'on appelle maintenant de la nage artistique. Des athlètes, tu l'as dit, qui disent qu'il y avait vraiment un climat toxique, du harcèlement physique, psychologique, des abus de toutes sortes, des commentaires sexistes, des commentaires racistes également. Et ça, pas pendant 6 mois, pas pendant 1 an, ce serait déjà trop, mais pendant plus d'une décennie que c'est comme ça. Et elle décide finalement, et c'est ce qui est important de vous raconter, elle décide de poursuivre, d'intenter une action collective contre Natation Artistique Canada, qui est la fédération qui chapeaute toutes les activités liées à la nage synchronisée au Canada. Donc, une poursuite de plusieurs centaines de milliers de dollars parce qu'elles disent que la fédération a toujours fermé les yeux finalement sur le fait que de son personnel, que des entraîneurs, entraîneuses y allaient comme ça de comportements complètement inappropriés pendant une décennie au minimum. Pour te donner une idée, là, je vais te laisser entendre tout d'abord Gabrielle Boisvert. Elle a été membre de l'équipe nationale de 2015 à 2018. Elle nous explique un peu ce qu'elle a vécu et comment elle s'est sentie dans tout ça.
Moi, j'ai compris une chose très vite en arrivant sur l'équipe nationale. Bien que tu as passé ta vie à t'entraîner des 30-40 heures semaine, bien que tu as passé ta vie à essayer de te faire sélectionner sur l'équipe nationale, une fois que tu es rendu, c'est pas la même game. On te fait sentir comme le pire humain. On te fait sentir comme la pire athlète. On te fait sentir comme la pire nageuse au Canada et même au monde. Une fois sur le bord de la piscine, il y a un tempérament de peur, un tempérament de crainte qui est là face aux entraîneurs, face à ce qu'elle nous réserve dans la journée, mais aussi face aux propos qu'elle pouvait nous dire de jour en jour. Jusqu'au jour où est-ce que cette peur-là et cette crainte-là fait tellement partie de toi, puis que ces propos-là sont tellement répétés que ça devient une partie de ton quotidien, que tu y crois toi aussi.
Philippe, est-ce qu'on parle carrément d'une... Je comprends que c'est pas une entreprise, mais tu sais l'expression d'une culture d'entreprise. Est-ce que ce sont certaines personnes qui sont ciblées ou c'était vraiment la culture avec laquelle opérait Natation Canada?
On dit dans ce recours judiciaire qui a été déposé au cours des dernières heures que c'était systémique, que c'était fait comme ça, que le système était comme ça, mais qu'en bout de ligne, là, c'était surtout les entraîneurs, les entraîneuses, le personnel technique qui agissait de manière vraiment réprochable. Pression énorme, semble-t-il, pour que les nageuses perdent du poids. Ça revient dans plusieurs témoignages des athlètes. Souvent, les commentaires désobligeants, tous les cas de harcèlement physique, psychologique, ça vient du fait qu'on leur demandait toujours et toujours de perdre encore du poids. De perdre du poids parce que on leur disait que pour être une nageuse synchronisée, ben il fallait avoir un corps parfait, il fallait avoir un corps extrêmement mince, trop mince. Les filles se sont rendues malades, épuisement psychologique, boulimie, anorexie. Il y a eu énormément de cas semblables, semble-t-il. C'est pour ça qu'elle demande des dommages punitifs de 250 000 $. Donc, un quart de million qu'on réclame à Natation Artistique Canada, mais aussi, en plus de cette somme globale, chaque athlète ou ex-athlète réclame 12 500 $ par année au sein de l'équipe nationale. Donc, quelqu'un qui aurait passé 10 ans là-bas, bien, ce serait une somme quand même très importante. Et c'est une action collective. Donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que là, il y a 5 athlètes qui poursuivent aujourd'hui, mais toutes les athlètes qui ont fait partie de l'équipe nationale et qui pensent avoir vécu des situations semblables vont faire partie du recours collectif.
À partir de quelle année, Philippe?
On dit que c'est à partir de 2010, précisément. On a fixé la date à 2010 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça pourrait représenter des dizaines et des dizaines d'athlètes comme ça. Je peux te laisser entendre encore un deuxième témoignage. Cette fois, c'est Chloé Isaac, membre de l'équipe nationale, elle, de 2008 à 2014, donc pendant une période de 6 ans. Elle parle justement de la pression indue que les nageuses avaient pour perdre du poids et ça les a complètement affectées de manière très négative, là.
Mon entraîneur me promettait une place sur le podium, à condition de rentrer dans un petit moule de l'athlète parfaite qu'elle s'était imaginée pour moi. Je devais me plier à ses exigences au risque de ma santé mentale et physique. Au cours des mois qui ont suivi, un climat d'oppression et de peur s'est installé. J'allais à la piscine avec le ventre noué. Il était devenu commun que l'entraîneur me crie des insultes en pleine pratique. Elle s'en prenait aussi aux autres nageuses et j'ai quelquefois pris leur défense en mettant ma place en péril. On a mis beaucoup de pression sur nos poids et notre composition corporelle. Nous avions des pesées hebdomadaires et parfois sans avertissement. Mes capacités dans l'eau importaient peu. Finalement, le chiffre sur la balance était prioritaire.
Philippe, est-ce que...
J'ai alors développé des troubles alimentaires, de l'anorexie et de la boulimie. Après 8 heures d'entraînement, j'allais courir sur le tapis roulant dans l'espoir d'atteindre le poids qui m'était imposé et peut-être finalement avoir un répit. Je n'arrivais pas à supporter toute cette pression. On m'a prescrit des antidépresseurs dans l'espoir d'alléger mon anxiété. Les troubles de l'alimentation sont communs en sport. On en parle très peu. La natation artistique encourage des standards de beauté irréalistes et souvent malsains. On nous demande d'écraser notre identité, notre authenticité au profit de l'équipe, afin que l'on nage et respire tout à l'unisson.
Philippe, est-ce que les coupables, entre guillemets, ou les gens qui sont visés par ça sont nommés dans le recours ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Oui, on nomme les entraîneurs, notamment Julie Sauvé, qui est probablement l'entraîneuse de nage artistique qui a été la plus connue. Là, elle avait justement collaboré avec Sylvie Fréchon
oui,
il y a quand même longtemps, les jumelles, il y avait aussi les jumelles et tout ça. Donc, elle est nommée, mais toutes les entraîneurs, entraîneuses des dernières années sont également nommées dans ce recours collectif-là. Natation Artistique Canada, il y avait eu des révélations à propos d'un climat malsain déjà il y a quelques mois. C'est Radio-Canada qui avait fait ces révélations-là. À ce moment-là, la fédération avait dit, nous, on n'était pas au courant de rien du tout. On n'est pas intervenu parce qu'on ne le savait absolument pas ce qui se passait sur le bord de la piscine de la part de nos entraîneurs. Or, les athlètes qui ont témoigné aujourd'hui, je peux vous le dire, les gars, on dit, on a à plusieurs reprises levé le drapeau, on a écrit des lettres, on est allé souvent de manière commune dire que ça n'avait aucun sens ce qui se passait. Souvent, cependant, on menaçait les nageuses de les sortir de l'équipe nationale. On leur disait que c'était du délire ce qu'elles racontaient. Elles n'ont jamais été crues, disent-elles. Et il y a Sylvie Fréchette qui n'a pas voulu répondre aux questions aujourd'hui, a fait une déclaration. D'un côté, c'est assez dur de savoir un peu ce qu'elle pense de tout ça, là, parce que d'un côté, elle dit « assez, c'est assez ». Elle dit « plus les temps changent, plus c'est pareil ». Elle dit « aujourd'hui, on sait que c'est inacceptable ce qui s'est passé dans le contexte d'entraînement ». Et elle dit « je suis tellement désolée de ne pas être intervenue pour ces athlètes-là ». Est-ce qu'elle savait exactement ce qui se passait? Est-ce qu'elle s'est retenue pour ne pas en parler? Ça, pour l'instant, on n'a pas pu lui poser la question. Elle n'a pas répondu aux questions pour l'instant.
Et c'est intéressant que tu aies mentionné Julie Sauvé, parce que quiconque se souvient de cette époque-là est capable de se souvenir également de Julie Sauvé, qui était l'entraîneur
de la Sylvie
Fréchette. Exactement. Oui. Elle est décédée en avril 2020, puis je viens de retrouver une publication Facebook que Sylvie Fréchette avait fait à cette époque-là. Ça fait même pas un an. Mmh. Elle disait « ma deuxième mère, ma guide, celle qui m'a vue et a cru en moi, celle qui m'a prise par la main jusqu'au au plus haut sommet, je t'aime, Julie Sauvé. » Mais là, en même temps, il y a comme une espèce d'aveu de la part de Sylvie Fréchette qu'elle savait qu'il y avait des comportements qui étaient déplorables. C'est assez délicat, là, cette dynamique-là, Philippe.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on aurait aimé pouvoir lui poser des questions lors du point de presse. Elle sera en entrevue, nous, ici, du côté de Montréal, là, sur l'heure du midi. Donc, à ce moment-là, lors de la période questions-réponses, on pourra peut-être en savoir plus sur ce qu'elle savait, ce qu'elle ne savait pas. Est-ce qu'elle a subi certaines choses, Sylvie Fréchette, dans le passé, lorsqu'elle était athlète, mais qu'à ce moment-là, comme c'était une autre c'est époque, ça. Diront certains, elle ne s'est pas rendue compte que tout ça était inacceptable. Elle dit aujourd'hui, on sait que c'est inacceptable. Donc voilà là, peut-être la différence. On sait qu'au cours des 10 dernières années, elle n'était pas, Sylvie Fréchette, impliquée là, directement dans l'entraînement des athlètes, en côtoyait certainement, mais est-ce qu'elle était au courant de tout ce qui se passait de manière quotidienne? Voilà qu'on ne le sait pas, mais elle dit, j'aurais aimé pouvoir intervenir auprès de ces jeunes athlètes-là. Et d'ailleurs, les athlètes disent, on n'a pas le choix de poursuivre aujourd'hui parce que, visiblement, l'organisation, la fédération ne reconnaît pas qu'il y a un problème systémique et on veut, dans le fond, des dommages punitifs, surtout pour faire réaliser à la fédération canadienne que ces comportements-là, on ne peut pas les tolérer et que ça doit changer pour les prochaines générations d'athlètes qui vont passer justement au sein de cette fédération de nage artistique.
À suivre. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Philippe.
Merci, ça fait plaisir. Au revoir.
Philippe Bonneville, donc, notre journaliste au réseau Cogeco. Je suis en train de lire pas mal là-dessus aussi. Là. Puis, écoute, Julie Sauvé était, qui est décédée en avril 2020, on la voyait, était toujours aux côtés de Sylvie Fréchette. Là. C'était la plus connue des entraîneurs
c'était
là-dedans.
C'était la figure de l'entraînement, de l'équipe d'entraîneurs de Natation Canada.
Je suis en train de lire, des résumés là-dessus, Jonathan. Il y a peut-être les dates là, qui expliquent quelque chose. Là, parce que dans le document qui a été déposé, donc, devant la Cour supérieure, les requérantes font état d'un environnement dangereux sous la gouverne de Julie Sauvé entre 2009 et 2012. Donc, c'est à peu près 20 ans, ça, après la médaille d'or olympique de Sylvie Fréchette. Donc, ça concerne cette époque-là. On parle de Meng Chen aussi en 2012 et 2017. Leslie Sproul de 2017 à 2018 et de Gabor Sauzer. Donc, Sauzer en poste depuis 2018. Concernant Julie Sauvé, Chloé Isaac et Erin Wilson disent avoir été soumises aux demandes de perte de poids déraisonnables de Julie Sauvé et de sa perception tordue de la nageuse artistique parfaite. On dit de Julie Sauvé qu'elle était obsédée par le poids, selon elle. Et là, je vous rappelle qu'on parle de quelque chose qui se passe 20 ans après la médaille d'or olympique de Sylvie Fréchette. Est-ce que c'est l'époque qui a changé? Est-ce que dans l'acceptation, est-ce que l'athlète qui entendait ces propos-là acceptait des choses en 92 que les athlètes de 2012 n'acceptent plus ou c'est les propos qui n'étaient pas les mêmes? Là, pour l'instant, c'est pas facile de voir là-dedans, mais c'est toute une histoire, ça, qui vient de sortir.
Tantôt, avant l'émission, on a entendu un extrait du témoignage de Sylvie Fréchette. Mm. Et elle a bien mentionné que après sa carrière, elle a fait du mentorat, de l'accompagnement, etc. Donc, la période qui a suivi sa carrière olympique, elle était de près, là. Elle était associée de près à Natation Canada. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une position assez délicate là, pour Mme Fréchette qui devrait expliquer qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle savait, ce sur quoi elle a fermé les yeux. Parce que je l'ai trouvé assez repentante tantôt.
Ouais. Mais
à un moment donné, il va falloir aussi... c'est bien beau dire à ces jeunes filles-là, je vous comprends, je vous appuie, mais il faut aussi se regarder le nombril puis voir qu'est-ce y a-tu quelque chose qu'on aurait pu faire de plus? Là?
En même temps, Joe, c'est difficile parce que c'est difficile de lire dans sa tête. On n'était pas là quand Sylvie Fréchette s'entraînait avec Julie Sauvé, mais est-ce que Sylvie Fréchette a été victime de ça, mettons, au début des années 90? Tu peux être victime de quelque chose, pas t'en rendre compte, puis après ça, 20 ans plus tard, te faire croire que c'était pas ça, puis là, tu vois le même comportement qui se répète et ne pas intervenir. T'sais, c'est difficile de la rendre comme coupable de ça, d'avoir fait.
Ah, mais je
ne
la rends pas coupable,
là-dessus.
Mais je fais juste dire que quand notre collègue Philippe dit elle n'a pas répondu aux questions, puis on va avoir hâte de l'écouter sur les ondes du réseau Cogeco ce midi, effectivement. Parce qu'il y a des questions qui méritent d'être posées. 25-226, il y a une auditrice qui nous écrit: je suis une ancienne boxeuse et j'ai été témoin aux Jeux panaméricains du fait qu'elle devait être pesée. C'était pire que nous à la boxe. Et là, je sais qu'il y en a qui vont soulever le débat, à savoir, est-ce qu'on est rendu trop fragile, des sports de haut niveau, c'est normal que les athlètes soient poussés à se surpasser. Mais en même temps, tu sais, il y a des histoires comme des reportages qu'il y a eu sur la gymnastique, sur pas juste des histoires d'agression sexuelle, mais juste la façon que les athlètes sont traités.
Ouais.
C'est pas normal qu'après avoir fait un sport de haut niveau, dans lequel, mettons, t'as bien réussi, tu sois détruit psychologiquement.
Non, c'est ça.
C'est pas normal non plus.
C'est ces méthodes-là. Je suis en train de lire encore là-dessus. Là. Il y en a une qui dit, on m'a juste dit que c'était de ma faute, tout ça, je gérais pas bien mon stress. T'sais, se faire répéter ce genre d'affaires-là. Il y a une victime qui a dit, ça reste certainement un combat pour moi plusieurs années plus tard. J'arriverai jamais à accepter mon image corporelle. Donc, c'était beaucoup une pression psychologique concernant leur image corporelle, concernant leur poids. Puis ça peut traîner longtemps. Puis je comprends que dans un sport d'élite, tu sais, des fois, j'en vois là, des joueurs de hockey élite, là, ça prend un entraînement intense. Sérieusement, quelqu'un qui veut avancer, là, j'en vois des entraîneurs travailler des fois qui sont intenses. Pendant la pratique d'une heure, là, sont intenses. Pas d'intensité, ça marche pas. Tu peux pas devenir un sportif élite. Mais de là à faire du chantage psychologique puis du harcèlement psychologique, exact, sur le poids et tout ça, c'est là que la ligne doit être tracée.
Tu peux pousser un athlète sans le démolir.
Non, non, c'est ça, exactement ça. C'est assez spécial. Sérieusement, c'est une grosse histoire qui a été révélée aujourd'hui là-dessus. 11h39, minutes. On va parler d'un sujet un petit peu plus léger, mais encore là, pas tant non plus. C'est peut-être pas si léger que ça. C'est la peur des aiguilles. J'ai comme réalisé ça dans les derniers... As-tu peur des aiguilles, toi, Jonathan?
J'ai pas peur, mais je trippe pas.
Je ne pas, OK.
J'ai jamais eu un vaccin, ouais, ou une prise de sang ou l'aiguille chez le dentiste là, pour te faire jouer. Ouais. Je me suis dit, yes, je me fais piquer. Là.
Je trouve que chez le dentiste, c'est la pire. Ils ont beau essayer de te geler
la gencive. Moi, j'en ai tellement
eu,
ça me dérange comme
plus. C'est vrai, OK, moi, je n'ai eu pas tant souvent, puis c'est pire que l'aiguille dans le bras pour le vaccin. Là. Puis on va écouter peut-être l'extrait de Patrice Roy. Il y a quelques... C'est quelle date sur l'extrait, Alex? As-tu trouvé quelle date qui a dit ça?
Je pense que c'est un peu avant les fêtes.
Un peu avant les fêtes. Patrice Roy au Téléjournal. En fait, c'est plus son émission à lui là, sur RDI, qui à un moment donné est intervenu dans le contenu de l'émission en disant en direct qu'il faudrait peut-être arrêter de présenter les images de vaccination.
On a commencé à envoyer quelques messages à les ambassades et consulats canadiens.
Excusez-moi, Alec, là, parce que ça fait 8 fois qu'on voit la personne se faire vacciner. Il faut être correct le visuel, si on peut l'enlever. Merci. Merci, Régis. Je suis désolé.
J'ai pas remarqué, Patrice, je ne suis que...
Non, mais c'est bien, mais c'est parce que je pense aux gens aussi qui nous écoutent.
Oui, c'est OK. Correct.
Est-ce que ça vous dérange de voir l'aiguille dans le bras à la télévision?
Je l'avais entendu, mais je l'avais pas pris sous cet angle-là. Je pensais qu'il trouvait, tu sais, des fois, t'as un visuel, là, tu sais, la boucle est pas assez longue, là, ça revient, ouais, tout le temps, là. Je pensais que c'était plus ça, mais OK, l'idée que l'image de la piqûre de l'aiguille puisse se déranger du monde.
Ça a un nom, ça. As-tu déjà entendu parler de ça? La peur des aiguilles.
La picophobie.
C'est la bélénophobie. La peur des aiguilles. Puis, apparemment, qu'il y a un pourcentage, peut-être plus important qu'on pense, qui souffre de cette phobie-là. J'ai deux études. Là. Il y en a une de l'Université du Michigan qui nous dit qu'il y a 20 à 30 % de la population qui a une peur irraisonnée des aiguilles. C'est quand même beaucoup. Une personne sur trois qui a cette peur-là.
Mais pas
nécessairement. Il y en a une autre de l'Université de Toronto dans le soleil de ce matin à Québec. Là.
Est-ce que parce que tu as peur des aiguilles, ça veut dire que tu es inconfortable quand tu en vois à télé? Peur des aiguilles, c'est peur de l'aiguille dans ton bras à toi, non?
Ben, ouais. Mais
parce que moi, c'est un peu ça, là. Moi, je me suis évanoui. Peur des aiguilles? Quand j'ai donné du sang, je me suis évanoui.
OK. Mais la prise. Ouais, puis la prise de sang. Puis je vous dis pas de pas y aller. Moi, je l'ai fait à quelques reprises dans ma vie.
Il faut juste pas regarder l'aiguille.
Et je vous le dis, je suis une mauviette, là. Je suis allé à quelques reprises donner du sang. Puis il y a une fois, entre autres, où j'ai vraiment été une mauviette. C'est-à-dire que l'infirmière est obligée de me pencher, là, parce que j'étais en train de perdre connaissance. Bon, moi, je l'ai fait. Au moins, j'en ai donné du sang. Je me suis jamais empêché de le faire.
Bravo.
Mais une prise de sang aussi, c'est pas tout à fait la même chose que le vaccin. Mais là, ce que certains disent, c'est est-ce que la peur des aiguilles va empêcher du monde de se faire vacciner? Puis ça a l'air que oui. Ça a l'air qu'il y en a que peut-être derrière un discours anti-vaccin ou un discours critique envers le vaccin, ils vont dire publiquement que je suis pas trop sûr des effets. Alors que la vraie raison, c'est qu'ils sont peureux des aiguilles. C'est vrai que c'est pas si agréable que ça d'avoir l'aiguille.
Je pense qu'il y en a
que
c'est même inconscient.
C'est inconscient. Ça peut être inconscient.
Il y en a qui vont dire hey, j'ai peur de l'aiguille, je vais dire que je trosse pas le vaccin. Mais d'après moi, il y en a que la résistance, elle est même inconsciente. Mmh. En même temps, il faut aussi que tu relativises l'aiguille. Là. Un vaccin, là, c'est pas une petite affaire. Là. Moi, j'ai vu ma blonde se faire faire une péridurale 2 fois. Là.
Ouais, non,
aiguilles qui se font rentrer dans le dos à frette, là, m'a dit wow!
Oh boy. Ouais, ceux qui ont eu des ponctions lombaires aussi. Quoi, ou les enfants, lombaires, ouais, ouais. Les enfants diabétiques qui se piquent à l'insuline. à tous les jours, là, quotidiennement aussi, là, je peux te dire qu'ils vous trouvent peut-être un peu...
Non, mais peut-être que tu ne veux pas juger les gens. C'est comme l'autre
qu'on parle.
Ben,
moi, j'ai tendance à juger
des araignées et des serpents en même temps, quelqu'un qui me dit, ben voyons, pourquoi tu as peur de ça?
C'est incontrôlant,
c'est pas rationnel.
Moi, je pense que ça fait partie de notre job un peu de juger. Puis, mettons, je vais juger un peu ceux qui vont s'empêcher, mettons, d'avoir le vaccin de la COVID à cause de ça. Puis, je sais pas son combien. Mais ce que je lis ce matin dans deux études, c'est que ça existe. La peur des aiguilles, ça existe. Et ça peut peut-être faire reculer certains. Tu sais, avoir peur des aiguilles, une peur irraisonnée de ça, regarde, de quoi j'ai peur, moi, j'en ai sûrement. Des peurs, là, une peur qui est pas très, très...
La dispersion des pattes.
Ça arrivera pas, j'ai pas peur de ça. Mais tu sais, tout le monde a une peur irraisonnée de quelque chose. Tu sais, moi, mettons, je mange pas des œufs, j'aime pas ça, des œufs. Tu sais, des œufs brouillés, des œufs à coque, j'haïs ça. Tu sais, je sais pas si ça se guérit ou... C'est pas une peur.
J'ai pas trouvé, j'ai une peur.
Quand j'étais jeune, j'avais peur un peu des chiens. Tu sais, c'était une peur un peu irraisonnée des chiens.
Ça, c'est un exemple de peur qui peut être irrationnelle.
Ben, c'est ça. Mais en même temps, en fréquentant des chiens, ou non, je devrais plutôt dire en côtoyant des chiens ou en voyant des chiens. Ça a sorti bizarre un peu. C'est là qu'à un moment donné, t'as plus peur des chiens, tu sais. J'ai un collègue de la radio ici à Québec.
On est dans la phobie, on est dans la phobie, là.
Tu sais, j'en ai un collègue ici, je le nommerai pas, mais il a peur des chiens, puis il avait peur de mon chien saucisse à l'époque. Probablement qu'il aurait peur de mon Golden Doodle, là, s'il venait chez nous actuellement, là. Parce qu'il a peur des chiens, donc il les haït. Bon, tout le monde a ça. Mais si ça t'empêche d'avoir un vaccin contre la COVID, on va se parler un peu, là. La peur des aiguilles, là. Ça dure, pas le fun, là. Il y a personne qui aime ça, mais ça dure quoi? Deux secondes, peut-être, l'injection qu'ils te font. L'aiguille, il n'y a pas longtemps dans le bras.
Des fois, on dirait qu'il y en a qui attirent le plaisir. Là. Ça pousse vraiment tranquillement. T'as envie de dire,
peut-être.
Un grand coup. Là. Mais de voir des enfants avoir peur d'un vaccin, là, ça. On en avait parlé avec Louis T. Il y a deux semaines. Là.
Ouais.
Moi, j'ai eu un épisode avec un de mes enfants où il avait décidé à cet âge-là, là, que les vaccins, ils ne voulaient plus. Là,
OK, OK.
Je le tienne, là, c'est pas...
Ben, c'est ça. Mais qu'il fasse sa crise, c'est pas le fun. Mais il fait sa crise, tu le tiens, puis il y a son vaccin.
Mais un adulte,
mais les
normalement,
adultes
devraient être capables. Ouais. Mais encore là, c'est comme les goûts, les peurs, ça se discute pas, peut-être.
Ouais, mais en tout cas, il faut pas que ça empêche les gens d'aller chercher le vaccin. Beaucoup de gens qui aiment pas ça voir ça à télé, puis je l'ai comme réalisé aussi un peu hier. Je regardais le téléjournal, il y avait un reportage sur le vaccin. Puis ils n'ont comme montré deux, trois de suite là, avec l'aiguille dans le bras. Puis c'est vrai que c'est pas si le fun, mais en même temps, c'est ça la réalité aussi, également. Donc, voilà pour les peureux des aiguilles. On vous salue. 11h46, vous êtes dans Trudeau-Landry. Dernière pause, on vient.
Trudeau-Landry. Bah, au moins, ils ont des beaux noms.